Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 2 janvier 2010, nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la cérémonie des vœux que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Que quoi ?
Le premier tome de la série Sillage.
Voilà. Oui, bah ça, bon, c'est aussi pas mal de...
D'accord, donc je rajoute aussi. Un film de Jean-David Morvan.
Voilà. Alors, bon, moi, je dirais que c'est du Danse avec les loups.
Radio FMR présente 2010, le retour du supplément week-end. Le magazine des cultures geek revient. BD, cinéma, DVD, TV, baston. Avec Ultimatum et The Screech. Et l'Orchestre Philharmonique de Radio Bratislava.
Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Bonjour Xavier, oui très bien, parfait, c'est bien de faire la première émission de 2010 en direct d'une église, c'est cool.
Oui, je sais, ah pardon, excuse-moi, là ça devrait aller un petit peu mieux. Un petit peu comme ça et tout. Joyeuses fêtes.
Eh bien, meilleurs vœux.
Bonne année, bonne santé à vous tous, qui nous écoutez, qui êtes fidèles, qui êtes spectateurs de ce absolument lamentable laboratoire d'infamie où on s'amuse en 5 minutes à critiquer et massacrer le boulot d'artisans ou bien des films qui ont coûté des dizaines de millions d'euros et tout, ouais. En disant ouais, on a vu mieux ailleurs, hein, c'est bien connu. Ceci dit, c'est notre 6e saison, c'est notre 6e cérémonie des vœux, si je puis dire. 2010, normalement. La première émission, c'est toujours la spéciale Galette des Rois. Là, on n'a pas eu le temps. Voilà, du sport n'est pas là aujourd'hui. C'est pas une gueule des bois, non. C'est qui bossait ce matin.
Mais il vient à partir de quand pour son émission?
Non, il pourra pas.
Ah, d'accord.
Il pourra pas. Voilà, puisqu'on rappelle quand même qu'on est bénévole là-dedans, donc c'est un plaisir, bien évidemment, de faire cette émission pour vous. Non, ça va mettre une gueule de bois monstrueuse. Oh, c'est terrible. Bref,
oui, tu es toujours bleu encore avec ta bassine à côté.
En fait, c'est une gueule de bois sèche. J'ai pas bu, mais on a dormi que 2 heures. Les gamins ont décidé que 6 heures du matin, c'était l'heure pour se réveiller. Enfin, 7 heures, pardon. Voilà. C'est enfin, bref, tout cela. On regarde dans le rétro, là.
Oui.
Oh, 2009 est passé. Quelle joie. Le terme est faible pour nous tous, puisque ça a été, je vais dire, personnellement, une année qui n'a pas été géniale. Mais ça, vous en avez strictement rien à foutre. Vous êtes là pour vous écouter, pour vous fendre la poire, parce qu'on est en train de dire du mal de pas mal de choses et de plein de trucs. Notamment, dans l'immédiat, on a eu Noël. On fait les marronniers à rebours, là, si je peux dire, et...
On a eu des cadeaux.
Oui. On s'est amusé à les piquer, je dirais plus exactement. Puisque c'est vrai qu'on a eu... on a regardé un petit peu et on a fait nos cadeaux pour nos petits cousins, petites cousines, neveux, filleuls, pour certains d'entre nous, et tout le reste. Et on nous avait demandé, puisque nous collaborons, Thomas et moi, dans un site d'information sur la bande dessinée qui s'appelle ActuaBD, qui est sur actuabd.com, et avec qui on va faire un partenariat, on en reparlera tout à l'heure. On nous a demandé, c'est très simple, pour le jury du prix de la jeunesse, qui va avoir lieu fin janvier. Ce serait bien si vous choisissez des bouquins. C'est alors la tranche d'âge cible, c'est
12-15 ans.
12-15 ans, voilà, puisque ce sont des collégiens qui remettent ce prix. Et faites une présélection. Alors choisissez deux titres de entre guillemets jeunes auteurs. Le règlement a bougé, bon, c'était pas évident hein, quand même. On lit relativement peu de titres jeunesse, c'est vrai.
Oui, on connaît surtout des c'est vrai que naïvement on pourrait penser que comme on tu chroniques beaucoup de mangas, ce serait plutôt pour des jeunes, mais en fait c'est beaucoup seinen et vraiment pour du manga pour plutôt pour les adultes, pour jeunes adultes en tout cas, pour aucune notion de pornographie dedans, attention.
Et voir dans la bande dessinée générale, et ben on a été surpris puisque l'an dernier quand même c'était
Le
Grand Duc qu'il a eu, alors que on se disait non, c'est pas vraiment un truc jeunesse. Enfin moi personnellement je me disais ça. Et non, au contraire, il a littéralement tapé dans l'œil. Donc on peut se tromper. Alors moi j'avais fait une petite sélection, Thomas aussi, du moins chacun de notre côté, on a remis en retard. On devait choisir deux titres humour, deux titres science-fiction, deux titres aventure et deux titres pour réfléchir entre guillemets. Donc dans tout ce qui est passé, on a choisi. C'est vrai que on a eu les auteurs, on a eu Pico Bog que l'on a choisi. Il y a Lou. Qui a été choisi. Je crois que j'ai vu passer dans une sélection les nombrils.
Oui, tout à fait.
Et puis Maé aussi que l'on avait pris. Deux titres de science-fiction. Moi, j'avais mis My Way parce que je savais pas où mettre. Je trouvais que ça aurait été dommage de ne pas le faire découvrir.
Une rubrique émotion, il faudrait.
Peut-être pour réfléchir, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est poétique, mais c'est le problème des rubriques. Hein, parce que il faut créer des cases, ça correspond pas forcément. Ainsi que Orbital. Toi, je sais pas ce que tu avais mis.
Mais moi, à part Pico Bog et Lou, où on est d'accord, on a tous les deux mentionné. Moi, j'ai mis les deux, le diptyque d'Ankama, donc de Bazer et Free Squeal, les deux deuxième tomes. Les auteurs Raph et Florent Modou, voilà pour la jeunesse énervée, rock'n'roll, ouais. Et plus aussi pour les écoles de super-héros. Ensuite, L'île sans sourire d'Enrique Fernandez chez Drugstore. Donc, ça c'était vraiment vision merveilleuse d'une espèce de conte avec un graphisme qui vous met littéralement par terre. Et puis finalement, l'album de Boulet, tome 6 Ragnarok. Chez Glénat, qui était bien poilant et qui était très d'actualité puisque ça a parlé d'un problème écologique.
Dans la catégorie aventure, moi j'avais pris Chemin de fer de Pommès parce que je le trouvais graphiquement marrant, très bon, graphiquement un petit peu difficile parce qu'il est en noir et blanc, mais vraiment il est agréable à lire, c'est vraiment un bonheur. Dog et moi de Thierry Plus chez Gallimard parce que je trouvais que c'était une aventure assez fun et rigolote.
Ah oui, quand il est à la recherche de son père.
Ouais. Et je pensais que ça pouvait toujours être amusant à faire. Et d'un autre côté, dans les titres à réfléchir, Arabico, parce qu'il est arrivé vraiment trop tard pour toute la saison des prix, c'est vraiment dommage. Et L'île des téméraires de Sato.
Oui, alors là, par contre, je vois pas pourquoi tu l'as mis pour les jeunesses, parce que...
Non, j'estime qu'au contraire.
Ah d'accord, c'est pour les éduquer, voilà. Ok. Moi, personnellement, Arabico, moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que... c'est vrai qu'on aurait aimé vraiment en discuter avec l'auteur pour des raisons... Pour des raisons particulières, il n'était pas là pour en parler avec nous, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on avait trouvé, on avait été assez scotché par les inégalités dont il témoignait dedans par rapport au fait qu'il est de sa condition de fils d'immigré.
Et c'est un album qui est vraiment d'actualité, qui est vraiment à réfléchir, et comme ce sont des jeunes, le prix en fait. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission spéciale en direct d'Angoulême qu'on a fait l'an dernier et opération qu'on va réitérer cette année. C'est en fait, ce sont de jeunes collégiens qui ont été élus au conseil général des jeunes du département de la Charente, excuse-moi, c'est oui. Singulier. Et c'est vrai que c'est ils ont quand même une matière politique, on l'a vu dans l'interview qu'on a fait avec le jury juste avant qu'ils annoncent leur prix. Ce sont quand même des jeunes qui sont assez matures. Ça rassure un peu, ça fait toujours plaisir. Et faites pas les cons derrière, vous vous déconcentrez, faites chier. Oh vos gueules, asseyez-vous. Voilà. Dans les cadeaux, moi j'ai reçu, ça m'a fait vraiment plaisir, The Office. Mais attention, la version anglaise, la version originale, celle de la BBC, saison 1 et 2. Alors là, je dis merci à ma petite sœur qui me l'a offert.
Donc la version française, c'est Le Bureau. Hein.
Il y a eu une adaptation française qui n'est pas restée très longtemps. Je sais plus, qui était faite par Canal+. Je sais plus le nom. Je crois que ça s'appelait L'Usine. Je ne sais plus.
Le Bureau, je crois.
Le Bureau, t'es sûr?
Le Bureau, ouais, je crois. Ouais.
Mais il était assez noir. Et comme Canal+, était en plein, au moment de la production, c'était en pleine fronde contre Messier et tout ça. Ça se termine assez violemment puisque la série n'avait pas été reconduite. Donc je crois qu'ils l'ont fait terminer par la fermeture. Je l'ai pas vu, hein. Donc,
non plus.
C'est assez rigolo. Toi, t'as vu quoi?
Moi j'ai eu.
On vous dit ça si jamais vous avez envie de nous l'offrir. Pensez pas quoi.
Moi j'ai eu une bande dessinée sur l'histoire du rock compilée en BD depuis grosso modo pas mal d'années. Alors j'ai pas retenu le titre hélas puisque je.
Ni l'auteur.
Non mais tu m'avais pas prévenu qu'on allait décrypter nos cadeaux ici. Alors voilà. Donc c'est vrai que par rapport au domaine dont on parle ici, bon c'était cette bande dessinée que j'avais reçue et puis d'autres objets sur des médias dont nous n'avons pas encore parlé peut-être, mais dont nous réfléchissons à peut-être éventuellement instaurer peut-être des chroniques.
Non, et on est hors de question. Jamais on parlera de jeux vidéo ici. Jamais.
On attendra que tu te fasses virer par l'actionnaire.
T'as pas piqué un cadeau toi à tes parents ou à tes sœurs ou un truc comme ça?
Piqué un cadeau?
Ouais.
Dans ma vie ou cette année?
Cette année, un cadeau, t'es là. Ah, ouais, j'ai piqué à mon papa, mais c'était juste pour lire une soirée. Un double album collector de Lucky Luke, qui est fait par les éditions Atlas, donc à un prix vraiment ridicule. C'est un double album, donc deux en un. La Diligence et le Piétante, c'est vraiment l'époque d'or hein, de Lucky Luke, où il y a plein de références. Et d'ailleurs, j'ai revu hier, Était une fois dans l'Ouest, t'as plein de références extrêmement précises qui ressurgissent.
Ah oui, il y a des références dans Lucky Luke à Était une fois dans l'Ouest.
Ouais, et puisque c'est en plein, hein, c'est en plein cette période-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un dossier complémentaire. Alors, il faut savoir que dans Le Pied Tendre, il y avait à la fin de l'édition originale qui est chez Dargaud, pas de l'édition originale, hein, mais de l'album tel qu'on peut l'acheter chez Dargaud, il y a deux planches qui sont des reproductions de gravures qu'a collecté Maurice sur justement ces mœurs de bizutage dans l'Ouest. Et là, eh ben, ces 24 pages sont consacrées, notamment il y a Thierry Grosten derrière, donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est bien écrit, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on pourrait attendre justement de ce côté-là. Assez passionnante sur justement toutes les inspirations de Maurice, de Goscinny, sur ce qu'est vraiment la Wells Fargo, qui sont les personnages qu'il fait intervenir, soit en caméo, soit d'où est-ce qu'il s'inspire sur certains faits. C'est rigolo, c'est intéressant, c'est une bonne redécouverte. Comme quoi, non, on n'est pas forcément la bande dessinée exclusivement nouveauté et tout ce que vous voulez et patin coup fin.
Voilà. On est aussi réac, c'est cool.
C'est cool. 2009 est passé et Gilles Ratier, le secrétaire général de l'association et critique de la bande, a sorti une somme. Le terme est faible, et c'est-à-dire il a fait une analyse comptable, critique des sorties de cette année. Et je regarde en fait autre chose en même temps. Donc ce qui est très intéressant derrière son analyse, c'est qu'en fait il regarde l'ensemble de la production et il fait un panel correctif de la production. Correctif, non, je me trompe. Il fait une somme. Alors attention, on parle de chiffres, mais ce sont des chiffres soit du nombre de sorties, soit du nombre d'albums mis en place, mais ce ne sont pas des chiffres de vente. Donc ce ne sont pas vraiment. Les chiffres qu'il indique sont juste en nombre de titres purs. Donc un Astérix fait autant, je vais dire, que un Welcome to America dans son nombre de sorties. Et c'est extrêmement intéressant. Ça faisait des années qu'on parlait d'une crise. Qu'on parlait d'une crise dans le milieu de la bande dessinée, d'une surproduction absolument aiguë et complètement délirante, puisque on était en 2000 à 1000 nouveautés sorties dans l'année, et là on a été en 2009 à 3600 nouveautés. C'est-à-dire on parle juste des nouveautés, on parle pas des rééditions derrière. C'est carrément du délire absolu pour les libraires et tout ça. Eh ben, figurez-vous que c'est un chiffre qui est stable, puisque l'an dernier aussi, on était à peu, on avait à peu près 3400 nouveautés. Là, on est à 3600. Donc, ça commence à aller un petit peu moins vite. C'est toujours le problème, par contre. C'est un chiffre que l'on n'a pas. C'est le nombre, je veux dire, médian, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qu'il y a par nouveauté. Avant, chez Delcourt, quand je dis avant, c'était en 98, on sortait un bouquin à 5000 exemplaires minimum. Maintenant, je ne sais pas combien exactement de bouquins sortent, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on soit à 5000 bouquins, tu vois, pour une nouveauté au minimum. Ça doit être, des chiffres doivent être largement inférieurs. C'est-à-dire qu'on a une surproduction, mais le problème, c'est est-ce que les auteurs en vivent? C'est comme d'habitude. Ben,
il faudra savoir, à part les gros succès comme les fonctionnaires ou des trucs comme ça, il faut savoir, faut rééditer à l'occasion une moyenne à bout de combien d'albums un auteur peut décemment vivre à partir de bande dessinée.
C'est le reproche qu'on peut faire à Gilles Ratier. C'est le reproche qu'un peu que certains gens font, mais d'un autre côté, son travail comptable, il est pas trésorier, il est juste secrétaire, hein, de la CBD.
Oui, non, mais c'est pas de lui qu'on attend ce truc-là. C'est vrai que pour les auteurs débutants, c'est quand même un truc à savoir. Oui.
C'est quand même extrêmement intéressant. Alors cette année, on a eu 1470 albums de la Franco-Belgie qui sont sortis. On a eu 1460 séries asiatiques. Et une erreur, à mon avis, une erreur extrêmement intéressante, c'est qu'ils mettent les séries asiatiques, c'est faux, c'est albums issus de la bande dessinée asiatique. Parce que tu as les one-shot, et des Yu-Gi-Oh! T'en as eu 10 hein, dans l'année, donc ça n'est pas exactement la même chose. Et 270 comics et 400 romans graphiques. Comme quoi, les comics se sont vraiment se sont éclipsés.
Les romans graphiques, ça peut être français ou américain, ou graphique novel juste américain.
Un peu de tout. Ah. C'est-à-dire ce qu'on appelle les livres expérimentaux, voire les ouvrages d'études dans le lot. On a dans les historiques, dans les genres. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que les séries historiques, moi je dirais plutôt les bandes dessinées en costume, parce que c'est pas franchement forcément de l'histoire, loin de là. On en a environ 316. Des ouvrages destinés à la jeunesse et aux petits, il y en a 185. Les albums humoristiques, ce que tu parlais justement, ah oui, les séries humoristiques, ça marche toujours bien. Eh ben non, il y en a eu 480 albums cette année, et en 2008, il y en a eu 527. Donc il y a une descente quand même, il y a une décrue. Et les thrillers et les polars, 212, la science-fiction et le fantastique, 240, et 37 albums érotiques qui sont arrivés cette année. Donc c'est toujours intéressant à voir. D'un autre côté, ce sont les forces en présence. Alors on va vous faire une petite radiographie rapide du milieu actuel de l'édition en France ou dans le secteur francophone. On a toujours Media Participation qui est le plus gros producteur, avec Dargo Benelux, Cana, Le Lombard, Dupuis, Black & Mortimer, Lucky Comics, Fleurus. C'est le cinquième éditeur, c'est le cinquième acteur dans le livre en France, tout genre confondu. Et c'est 32,7% des ventes d'albums en France en nombre d'exemplaires. Là par contre, ce sont les chiffres réels de vente. Glénat, alors tu as les Glénat, tu as les mangas, tu as Vendouès, tu as Caravel, Drugstore, ancien Albin Michel, très étrange qu'ils ont racheté à l'éditeur Milan de Toulouse. Eux, ils représentent environ 8,5%. Tu as les éditions Delcourt, qui a en plus une branche manga via Akata et aussi une filiale Tonkam, et ils ont aussi racheté Robert Laffont bande dessinée. 480 titres sortis en 2009. Le groupe Flammarion avec Casterman, Caster, Fluide Glacial, Jungle et Librio, ils ont publié 270. Et Soleil qui est dans MC Productions, alors c'est Soleil Manga, Quadrant et Fusion Comics, c'est environ 380 titres qu'ils ont sortis cette année. Alors c'est que un chiffre purement mathématique. On voit l'arrivée quand même des éditeurs via l'internet, avec AV Comics, BD Touch qui se spécialise dans l'iPhone, Mobilir, Forocom, DigiBD, Shoyoz. il y a aussi ben tout ce qui est traduction et tout le reste. C'est un gros pâté. Je l'ai imprimé un peu rapidement puisque ça fait 40 pages.
En fait, t'es en train de découvrir en direct.
Non, j'ai stabiloté.
Non, je rigole.
J'ai stabiloté. On a aussi connu quand même de grandes pertes cette année pour le 9e art, puisque nous ont quitté Claude Moliterni, qui est un grand spécialiste historique de la bande dessinée. Yves Duval.
Oui, co-fondateur du Festival d'Angoulême aussi.
Voilà, Yves Duval qui était scénariste. Jean-Marie Bruguière, scénariste et dessinateur pour Spirou. C'est lui, notamment le créateur de Archicash. Ceux qui connaissent, qui adorent les casseurs. Lem, qui est dessinateur de presse et auteur de quelques bandes dans l'équipe, donc ça, du sport, on se souviendra un peu. Thierry Jonquet, qui était scénariste, auteur de polar, principalement, et scénariste à côté pour Jean, pour Chouzy. Donc, ça fait... Ça c'est normal, hein. Mais après il y a de nouveaux auteurs qui sont arrivés. Et une radiographie des prépublications, ce qu'il en reste en France. On a plus que 14 magazines de prépublication de bande dessinée. Alors tenez-vous bien, le journal de Mickey, Super Picsou Géant, Mickey Parade, Picsou Magazine, Witch Mag, Winnie, Bambi, et à côté il y a Spirou, Cho et l'Enfance Mag. Ah oui, Flic Glacial, Psychopathe et l'Écho des Savanes. C'est, je veux dire, il reste plus grand monde là-dedans, quoi.
Donc, oui, voilà. Si t'enlèves l'univers Disney.
Et pour terminer, 99 séries ont été tirées à plus de 50 000 exemplaires. En tout et pour tout. On parle, attention, de premier tirage, mais c'est pas les ventes. Donc on ne sait pas exactement ce qui a été vendu ou si il y en a pas qui, par le jeu des rééditions, sont allés bien au-delà. On verra. Je vous invite à le consulter. Vous pouvez en voir une analyse sur actuabd.com ou sinon sur le site acbd.fr. Voilà, c'était la grosse tartine de, je vais dire...
La reprise de 2010.
Non, je vais dire de l'analyse de ce qui s'est passé en 2009. Maintenant, on va peut-être voir un peu ce qui s'est passé en 2010.
Ce qui s'est passé en 2010, alors, ça fait depuis deux jours, oui, alors...
Ah non, dans la fiction.
Dans la fiction, ok.
Radio FMR, c'est le supplément week-end. Petite programmation musicale toute gentille avec Easy Roller featuring Shannon Brown dans le morceau Wild Runner. One. Tu vas rire, j'ai pas réussi à relancer ça proprement, Thomas. Va falloir faire ça à sec. Thomas, ma foi, toi qui as été au cinéma, t'as fait une belle analyse de ton bilan. 30 films vus, tu vas peut-être prendre une carte illimitée.
40 films.
Oh.
Voilà, 40 films, dont certains, parce qu'avec la lutte contre le piratage, donc ils sortent très vite en DVD, donc certains que j'ai découvert en DVD, mais qui sont quand même sortis cette année, donc je les inclus dedans. Justement, on va peut-être avoir les interventions de Sébastien, qui est parmi nous aujourd'hui. Dis bonjour.
Voilà. Non, mais ne me fais pas ça quand je suis pas les doigts sur le truc.
Voilà, il t'a ouvert le micro maintenant, vas-y, dis bonjour.
Bonjour, tu peux enlever tes doigts sur le truc maintenant.
Voilà, je peux couper.
Donc tu interviens quand tu veux. Et donc voilà, donc on a eu. Je vais parler que des films que j'ai vus bien sûr, et puis il y a beaucoup de grosses références qui sont sorties que je n'ai malheureusement pas vues, donc évidemment j'en parlerai pas. Alors on a eu les inévitables grosses suites américaines cette année, puisque le Star Trek, même si c'était un reboot, c'est quand même le 11e Star Trek qu'on a eu le plaisir peut-être de voir sur les écrans, en tout cas depuis le premier long métrage des Star Trek. Donc il y a eu l'âge de glace 3, on a eu Harry Potter 6, Transformers 2, Terminator 4, donc c'était des grosses suites au niveau du budget, mais après bon c'est vrai que c'est pas les films qui vont truster les 5 premières places du top. On a eu quelques déceptions également dans cette année. On a eu, pour ma part, il y a eu Prédiction, puisque vu ce qu'avait fait Alex Proyas sur ses précédents métrages, on était en droit d'attendre un peu mieux, mais c'est vrai que c'est loin d'être la daube unanimement dénoncée partout sur le net. On a eu Hank Back 2, qui était l'énigme aussi cette année, avec cette fin charcutée ou pas, on sait pas, il faudra voir, peut-être la version Lenin, peut-être version Director Scott un jour. On a eu Jennifer's Body, qui était un gros pétard mouillé, et The Spirit, qui, moi, je ne sais pas quoi dire sur ce film. On a eu surtout deux grosses, c'est pas des énigmes, c'est des objets. Donc on a eu G.I. Joe, j'avais dit que j'en parlerai aujourd'hui. Bon, je sais pas si finalement je vais faire une vraie chronique la prochaine fois ou si je vais me cantonner à juste l'évoquer, je sais pas. Donc de Stephen Sommers, c'est celui qui avait fait les deux momies, puis Van Helsing, voilà. Et on a Dragon Ball Evolution, donc je suis heureux d'avoir chroniqué ce film au moment de sa sortie, qui était quand même un 1er avril, donc il fallait le faire. Voilà, Dragon Ball Evolution, que dire, s'il y en a ici qui l'ont vu, à part moi.
Je peux pas me prononcer pour l'instant.
D'accord, bon, mais c'est bien dommage parce que tu aurais beaucoup ri, et ou pas, enfin moi j'ai pas ri, j'étais juste consterné. Beaucoup de gens ont dit que c'était un film qui voulait être un nanar, mais qui ne l'a pas été.
C'est un film parodique de l'univers d'Hollywood.
Tu crois sincèrement à ce que tu dis ou
Oui, c'est-à-dire qu'Hollywood prend un univers formidable et le massacre parfaitement.
Ah oui,
et
voilà.
Et là, ils sont allés jusqu'au bout de leur concept.
Voilà, de ce côté-là, ça se tient, t'as raison. Ensuite, on a eu des films assez dont on attendait, enfin, pour certains pas grand-chose, qui sont venus de France, mais qui sont révélés quand même des bons petits films. Donc on a eu Les Derniers Jours du Monde, qui est sorti pour ma part un peu de nulle part, et dont on a vachement apprécié le côté jusqu'au boutiste, et finalement le côté vraiment débridé, le côté fin du monde, allez, tout le monde à poil, partout géante. On a eu OSS 117, qui nous a vraiment tiré les larmes, tellement on a rigolé au point de vue dans le degré de blagues racistes. Donc je vous encourage à voir le film, ce sont des blagues qui vont vraiment très 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 loin. Et LOL, alors qui au départ partait d'un pari perdu à l'antenne.
Oui, je m'en souviens.
Et finalement qui a été une bonne surprise.
C'est pour ça que maintenant on a interdit les galettes des fées, les galettes des rois à l'antenne.
Oui, tout à fait. Ah oui, ça fait tant de temps que ça, on avait perdu, c'était la galette des rois. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ben il est sorti.
Il va falloir qu'on remette ça samedi prochain, pardon, mais il faut qu'on trouve le gage.
Tout à fait, ouais. Et puis donc LOL qui a été un des succès publics surprise de cette année. On a eu également les inévitables perles asiatiques de l'année. Donc on a eu du film coréen vraiment ultra référencé au Bon la brute et le truand, qui était le Bon la brute et le cinglé, qui était enfin pour ma part en tout cas, que j'étais vraiment enfin extrêmement surpris par le côté pas vraiment pastiche et pas vraiment copie conforme. Donc c'est un film qui était enfin une référence qui était vraiment assez intelligente, puisque c'était ils te prennent chaque séquence du film de Léon et ils en font quelque chose d'autre, mais tu peux savourer les deux films indépendamment. Il y a pas vraiment comme les deux types de scènes jouent sur plusieurs tableaux, tu peux pas vraiment les comparer. Donc ça, c'est vraiment un tour de force qui est assez réussi. On a eu le dernier Johnito, Vengeance, avec Johnny Hallyday, avant évidemment tous les problèmes qu'il a eu, le pauvre.
Dire qu'il est censé tourner dans un film de Quentin Tarantino.
Oui, c'est ouais, tout à fait.
C'est ce qu'il a dit, hein.
Oui.
Mais oui, bon.
Ce qui en soi est improbable, ou alors
peut-être le remake de L'Homme de Fer, je sais pas.
Non. Bon. ou du western qu'il a fait.
Oui, c'était quoi le western qu'il avait fait déjà?
Ouh, alors là, je me souviens bien, je vais le retrouver. Bon.
Ensuite, on a eu du film japonais avec Kiyoshi Kurosawa et Tokyo Sonata. Donc, Kiyoshi Kurosawa qui avait été surnommé l'homme qui a inventé l'ennui. Ben justement.
Oh, c'est méchant!
Ben oui, donc il nous avait gratifié avant de l'excellent Cairo. Et donc Tokyo Sonata qui est vraiment une des grosses surprises aussi de l'année, très humaniste, avec une partie de sonate au piano qui clôt le film façon magistrale. Et puis on a eu les trois royaumes du Grand Zhonwu, coproduit entre la Chine continentale et Hong Kong. C'était vraiment le truc énorme, mais on attend quand même encore de voir la version longue qui fait deux fois la durée du film, qui est de la version qui est sortie chez nous. On a eu les films animés avec pas mal de titres cette année. Donc il y a eu Numéro 9, produit par Tim Burton. On a eu là-haut le Pixar, on a eu le Miyazaki, bon, il en fait un maintenant tous les 4 ans, hein, presque, après le...
Ouais, ouais, il a une retraite définitive très active, hein.
Oui, voilà. On a eu la surprise aussi française qui était Lascar. Moi, selon l'expression consacrée, moi j'étais allé les pieds devant, et franchement c'est vrai que si tu passes les 5 premières minutes où tu dis c'est quoi ce design pourri, ben finalement ça passe, et justement tu te concentres sur le scénario qui est vraiment rigolo. On a eu Piano Forest qu'on avait découvert à Annecy l'année dernière, et sous son titre japonais Piano no Mori, et qui était un joli dessin animé sans fioritures sur deux gamins qui lient un lien d'amitié assez fort autour de l'apprentissage du piano. Et puis Evangelion 1.0 You Are Not Alone, qui est l'adaptation plus ou moins fidèle de la série animée, avec des nouveaux plans, des nouveaux effets, bon voilà, qui est toujours aussi dantesque. Cette année, avec le sommet de Copenhague, eh ben on a eu beaucoup de films apocalyptiques.
Je rappelle que en plus cette année 2010, c'est l'année de la biodiversité.
Ah ben voilà.
Pour l'ONU, et c'est l'année aussi dans laquelle la communauté européenne s'engage à respecter les accords de Kyoto étape 2.
D'accord.
On va rire.
Alors justement, en film apocalyptique, on a eu donc Numéro 9 qui se passe après une guerre nucléaire. On a eu La Route qui se passe après l'apocalypse nucléaire. Apocalypse tout court, et c'est pas décrit si c'est nucléaire ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de SDF et beaucoup de morts. On a eu Prédiction avec l'apocalypse qui se déroule sous nos yeux. On a eu donc Watchmen, qui est pas vraiment un apocalypse, mais un petit apocalypse quand même, avec quelques victimes, on va dire. Les derniers jours du monde, bien sûr, et Terminator Renaissance, qui se passe après donc le cataclysme de Skynet.
Tu as oublié Avatar, puisque la Terre est détruite.
Ah, c'est une planète à l'agonie. Mmh. Oui, tout à fait, ouais, mais on sait pas si c'est suite à une apocalypse, parce que c'est...
Non, c'est un mode de fonctionnement normal de l'industrie capitaliste et consumériste.
On a eu évidemment le retour de quelques réalisateurs stars. On a eu du Tarantino, Clint Eastwood, Michael Mann, Sam Raimi, Darren Aronofsky, James Cameron, bien sûr, depuis 12 ans qu'on attendait son retour, Hayao Miyazaki, Johnito, John Woo, Danny Boyle, Alex Proyas, et puis d'autres aussi, Lars von Trier, dont je n'ai pas chroniqué son dernier film. Alors tout ça pour dire que, bon voilà, c'était un peu le prétexte pour énumérer pas mal de films dont on avait parlé sur cette antenne, mais qui dit... retour en arrière sur une année de cinéma dit forcément classement, et qui dit classement dit forcément un petit top.
Et on peut pas.
Et on n'a pas le jingle à disposition, ouais, puisqu'on
on peut
a.
Essayer. On peut essayer, mais ça va être évident.
Allez, essaye, on va essayer de meubler en attendant. Donc, justement, on va profiter du fait qu'il y a.
Non, attends, ça va, je vais lancer là-bas.
4,
4,
ah, bon,
3,
d'accord.
2, 1.
Le top 5.
Et c'est pas génial, voilà.
Allez.
Numéro 5.
Alors, numéro 5, on attaque avec The Wrestler. Donc, c'est le dernier film de Darren Aronofsky sur l'univers du catch et surtout sur le retour en force de l'excellent Mickey Rourke qui avait déjà fait un petit retour dans le rôle de Marv dans Sin City et qui sera surtout le méchant de Iron Man 2. Et donc, The Wrestler, ça raconte la tentative d'une ancienne star du catch qui veut essayer de reprendre le contrôle de sa vie, notamment en renouant avec sa fille et en faisant un dernier baroud d'honneur sur du ring. Jamais on avait vu du catch comme ça filmé de cette façon. Je pense que ça peut être
même pas Million de Dollars Baby.
Ça c'est le film de boxe et puis bon, les ricains sont très forts en film de boxe,
voilà.
Ou la scène de catch dans OSS 117.
Oui, dans le micro s'il te plaît. Non, tu regardes, tu fais pas propre.
Ok. Ou la scène de catch dans OSS 117 parce qu'il y en a une.
Non, c'est de la savate française. Attends, en service secret. Peut-être que c'est de la boxe française, je ne sais pas.
C'est surtout du bokeh, moi.
Numéro 4.
Allez, alors là, c'est la grosse tuerie, film tellement marquant que je n'ai même pas eu le courage de me l'acheter en DVD. Pourtant, je l'ai adoré au cinéma tellement il est dur. C'est The Chaser. Donc le film dont on ne se relève pas, coréen, sud-coréen, donc de Hong Jin-na, et qui est une descente aux enfers d'un proxénète qui va essayer de retrouver l'une de ses filles qui a disparu et qui est un peu séquestrée par un psychopathe. Et le film justement tord les codes de ce genre de film, puisque le séquestreur donc est arrêté et avoue ses crimes dès le départ, et suite à des vices de procédure on va voir qu'il va réussir à contourner les procédures policières. Donc c'est vraiment un film coup de poing.
Numéro 3.
Alors quand on préparait l'émission off, Xavier était persuadé que ce serait le numéro 1.
Et... ah bon. Oui, ouais. Mais sortons. Ah, voilà. On le refait et en fait c'est le
numéro 3.
Oui, oui. Pourquoi t'avais pas dit le... Bon, d'accord. Donc voilà, tu étais persuadé que ce serait le numéro 1. Non, c'est Avatar de James Cameron, puisque dans son rôle d'immersion dans un écosystème créé de toutes pièces, par ses multiples références à la culture SF, notamment BD ou animé avec Miyazaki, et aussi c'est le côté vraiment empathique pour une planète, vraiment la planète Pandora, qui a scotché des millions de spectateurs. Mais malgré ça, il y a quand même un scénario un peu trop prévisible et vraiment une succession de clichés qui est vraiment dommageable. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas numéro 1, mais c'est vraiment la grosse tuerie de cette fin d'année.
Numéro 2.
Numéro 2, franchement, c'est un film qui m'est arrivé sur la gueule sans aucune attente. Donc c'est Un prophète de Jacques Audiard sur l'univers carcéral, avec justement la grosse révélation du film, donc Tahar Rahim, si je me souviens bien. C'est avec Milsa Rustrup aussi qui absolument, c'est du costaud, mais de chez 150% costaud, du tatoué comme dirait du sport. C'est un film un pain dans la gueule. C'est Oz au cinéma, c'est tout ce que tu veux. C'est l'ascension d'un petit d'une petite frappe sans avenir qui va devenir l'un des grands caïds français. C'est un film à voir.
Numéro 1.
Et alors tu vas me dire, il manque une grosse tuerie dont on a parlé cette année.
Tant tu as parlé.
Parce que dans ce top 5, si on fait le décompte, on a donc un film américain indépendant, on a un film sud-coréen, le gros blockbuster américain, un film français. Il manque un autre film qui est plus exotique.
Ça y est, je vois. Laisse-moi deviner, c'est thaïlandais.
Non, c'est pas en bac 2, voyons. C'est pas thaïlandais, alors c'est un film.
District 9.
Voilà, donc
ça semblait. C'était évident pourtant.
Voilà, film sud-africain de Neil Blomkamp avec Charlton Copley, donc qu'on verra dans l'adaptation de The A-Team cette année dans le rôle de Looping. Alors voilà, c'est. Nous, on a été scotchés. La tuerie sur tous les tableaux, au niveau politique, au niveau SF, au niveau pur délire méca, au niveau effets spéciaux, réalisme. C'est un film qui a misé sur plusieurs plans et qui s'en est sorti haut la main sur tous. Donc voilà, Neil Blomkamp, qui devait à l'origine réaliser l'adaptation cinéma de Halo, produit par Peter Jackson. Ça s'est pas fait. Peter Jackson a permis à Blomkamp de faire un autre long métrage. Donc c'était celui-là. On est bien contents. Vous, si vous aviez un numéro 1, Sébastien, je sais pas si t'as pas trop préparé, mais voilà, là, comme ça.
Non, je me souviens surtout que cette année avait été riche en films très prometteurs qui ont fait plutôt des pétards mouillés. C'est vrai que tu parlais d'Avatar et son, son non. scénario un peu plan-plan. Je citerai Paranormal Activity qui a fait un gros buzz, peut-être organisé à la base, mais c'est vrai qu'à la fin on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose. Et puis bon, bah, 2012 qui marque le retour de Roland Emmerich, que tu n'as même pas prononcé le nom, en pleine forme, avec une grosse douleur comme on les aime. Merci à lui.
Ah, mais il est égal à lui même de ce côté-là. Enfin, le problème c'est qu'il y a déjà Michael Bay et.
Et plus fort encore.
Ah, voilà, c'est vrai qu'on a eu le gros binôme cette année avec les deux là.
Transformers 2, elle est très très haut aussi, hein, dans le naze.
Oui, c'est vrai que les. Enfin, peut-être que Xavier a envie de passer à autre chose, mais juste, c'est vrai que conclure des années cinéma avec des tueries, c'est aussi conclure des années cinéma avec des bonnes grosses bouses. Et ça fait plaisir de d'énumérer les petites bouses qui nous ont vraiment marqué.
S'il n'y avait pas de bonnes vieilles d'eau, bah, il n'y aurait pas de bons films.
Non, aussi. Mais les éboueurs sont passés. Ça passera sur TF1.
Non, il y a la TNT maintenant. Hein.
Ah, les soirées TNT, parlons-en.
Les journées TNT, alors parlons-en hier avec quand même des journées de Noël avec Dragon Fighter et Intercept Force 2.
Hein, avec 4 bêtisiers sur 4 chaînes différentes le soir du 31 décembre. Morandini, ça coûte pas cher.
C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs télés en même temps pour tout regarder. Hein.
Voilà. Oui, son genre. Oui, son genre. C'est une suggestion du sport si tu nous écoutes. Du coup, Thomas est obligé de se retenir de rire parce
En tout cas, moi, en niveau bouse cette année, je pense que Dragon Ball Evolution est insurpassable.
J'ai vu juste la bande annonce, ça laisse rêveur. Je pense que c'est du même niveau, c'est ça ?
Que les
que la bande annonce en fait.
Ah oui, tout à fait. Oui, mais c'est pire parce que la bande annonce, tu prévois que tu vas rire et c'est tellement concernant que tu ris même pas.
Après, c'est vrai qu'il y a des films qui ont été totalement rayés de la carte. On attendait beaucoup Chun-Li, Street Fighter, la légende de Chun-Li, qui apparemment ne passe même pas direct tout DVD, hein, direct tout rayé de la carte. Et on a aussi donc King of Fighters, le film de Gordon Chen, je crois.
Gordon Chen.
Voilà, où même la bande-annonce laisse présager du même pas mauvais, quoi, du pire que tout.
Ben, c'était sur une chaîne de la DSL qui disait grâce à ce film, les Sofs vont pouvoir vont enfin être vengés des Kofs. Eux aussi, ils auront leur film bousique. C'était enfin Street Fighter.
Et ah oui, d'accord, oui.
Et King of Fighters.
Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, ils vont sortir un film des années 90 en 2010. C'est ça qui est rêvé.
ça fait plaisir envers le cinéma. Petite sortie BD rapidement avec mais ça c'est je veux dire c'est un petit bilan de deux bouquins qui étaient vraiment à découvrir cette année tellement qu'ils étaient bien. D'abord le Samouraï Bambou sur un scénario d'Issei Ifuku et surtout le dessin de Taiyo Matsumoto, dessinateur de Amer Béton, de Blue et de plein de bandes dessinées qui étaient délirantes. Et là il rentre vraiment dans le style de l'estampe traditionnelle japonaise, tout simplement parce que il raconte l'histoire d'un samouraï, un samouraï déchu, qui a qu'un sabre de bois, un bambou pour se défendre, et qui s'est tant bien que mal inséré dans la vie de quartier, qui a un comportement d'enfant, qui se fait et qui apprend aux enfants à écrire, et c'est une œuvre poétique admirable et superbe, graphiquement à tomber.
Il y a donc, des dessins très radicalisés. Hein.
Oui, exactement. On est vraiment dans la suite, sauf que il est accusé, sauf que la police, enfin. Plus exactement, les représentants des forces de l'ordre le soupçonnent d'un meurtre, d'une série de meurtres, parce que voilà, c'est un personnage en marge, c'est un personnage un peu étrange, donc c'est si facile, hein, je veux dire, de mettre ça sur le compte des personnes en marge. Je ne vais pas raconter plus, parce que c'est vrai que la chronique a été un petit peu rapide, mais il y a plein de chats, donc voilà, c'est toujours aussi formidable. Le deuxième tome vient de sortir dans la collection Made in Shekana.
C'est une déjà, série qui est en combien de tomes en tout ?
Je ne sais pas.
Elle n'est pas finie
là,
encore.
Je ne saurais te le dire. Et là, on a le deuxième tome d'une trilogie. Donc là, c'est sûr, c'est en trois tomes. Une vie chinoise, toujours chez le même éditeur. C'est l'autobiographie de Lee Kunwoo avec P. Autier. Le deuxième tome s'appelle Le Temps du Parti. C'est un dessinateur du Parti communiste chinois chargé de la... Il fait partie du syndicat officiel des dessinateurs et il a été chargé officiellement de la propagande du parti. Donc il faisait des grandes affiches monumentales. C'est un dessinateur de BD. Il a fait des recueils de poèmes illustrés. Et c'est uniquement, on imagine, hein, ça m'étonnerait qu'ils sortent ça en Chine, donc c'est vraiment principalement pour la France, c'est où il racontait dans le premier tome sa jeunesse, plus exactement l'ascension de son père, fils de propriétaire terrien, mais qui est devenu commissaire du peuple. Donc il y a eu le grand bond en avant, il y a eu la révolution culturelle. Là on est à juste après la mort de Mao Zedong, hein, et donc la déchéance de la révolution culturelle, la purge où l'on a dénoncé les quatre comploteurs qui étaient derrière Mao. J'ai oublié le nom d'ailleurs, c'était un jeu qui était édité chez Dargo, j'ai oublié. Et puis en même temps, comment il a essayé d'entrer dans le parti, mais que c'est pas si facile que ça d'entrer dans le parti à cette époque-là. Et l'ascension d'un cadre du parti qui a pris la suite et qui va amener la Chine vers la modernité économique et vers la place du numéro 1 de l'économie. Donc c'est vraiment intéressant. Graphiquement, c'est très dur à y rentrer, hein. On va pas le cacher. Je crois que tu l'avais lu le premier.
Eh ben oui, mais ça me dit quelque chose, mais je sais pas, je m'en rappelle plus.
Alors, du sport l'a ramené quand tu n'étais pas là.
D'accord.
Mais en tout cas, ça reste vraiment un très très bon bouquin. À mon sens, c'est vraiment été la découverte vraiment intéressante de ce début d'année, hein, puisque je l'avais sur une pile dans un coin dans la folie de décembre et j'ai pris le temps de le lire pendant ces vacances. Péotier est un Français, donc il a aidé à mieux écrire le scénario et Li Kunbu donc fait l'histoire de Une vie chinoise. Le deuxième tome s'appelle Le temps du parti. C'est toujours chez Made in, chez Kana.
Donc voilà. C'est bien pour les gens qui aiment bien les traits dans les BD qui sont pas uniformisés par rapport au mainstream, hein, en fait.
On est très très loin de ce côté-là, c'est pour ça que c'est très difficile à rentrer dedans. Il y a un truc qui est arrivé par rapport à ce matin. Ah, oh, c'est le nouveau psychopathe 2012, la fin du monde.
C'est dommage, les gens n'ont pas la télé.
Voilà, avec quand même une parodie de Chival, destructeur des mondes. Donc c'est le numéro 216 janvier 2010 avec toute l'équipe du psychopathe et tout ça. Et donc pour la fin du monde à Apocalypse Matin, ça a l'air intéressant. Que faut-il faire sur... Regarde l'illustration en haut à gauche, le calendrier Maya sur lequel il était marqué que c'est la fin du monde. En haut à droite.
Avec les petits chats.
Voilà, encore des chats, mais c'est pas vrai. C'est complètement délirant, comme d'habitude. Bref, on va pas redire. On va pas en dire plus. Thomas, je crois que tu as du cinéma, donc on va passer à ça.
Est-ce que t'as une petite coupure avant ?
Coupure ? Non, ça fait mal. Bon, d'accord, une coupure. Allez, hop.
Excuse-moi, je te mets à contribution au dégoté.
Mais je suis le réalisateur du programme. Parce que là, on a vraiment des sérieux problèmes techniques sur les deux PC en même temps. Là, ça va pas du tout. Pas me laisser bricoler comme ça. Guardians of Dalliance, Curious.
Thank you.
Allez, encore.
Il est juste collé là.
C'est la dernière fois que je fais ce gag. La chronique cinéma vous est présentée par Thomas. Je le ferai pas souvent.
Alors aujourd'hui, Max et les Moxy Monstres. Voilà. Un peu dur de parler de ce film puisqu'il est assez décontenançant, on va dire. Réalisé par Spike Jonze. Donc, l'immense Skipper et puis aussi dans La peau de John Malkovich et Adaptation. Avec Mac Records, Catherine Keener et Mark Ruffalo. Alors c'est marrant parce qu'il y a surtout un gamin et beaucoup de Maxi Monstres, mais juste les acteurs adultes, c'est juste du casting béton. Alors bon, là ils ont sont venus faire coucou avec leurs potes. Alors, Max est un garçon de 9 ans qui est hyperactif, alors qu'une partie de boule de neige avec ses amis tourne mal, il devient ingérable et s'enfuit de la maison familiale. Il traverse la mer pour débarquer dans le monde des Maxi-Monstres, des sortes de grosses créatures impulsives en peluche, enfin peluche, on sait pas trop, qui le prennent pour leur roi. Et alors, se devant de déguider, Max tente de créer un monde idéal, mais devant la complexité des personnalités des créatures, il comprend vite qu'il est difficile d'être un bon leader. Alors, c'est un film qui est sur la... qui est pour comprendre un peu, c'est sur la psychologie enfantine, pas sur un enfant, mais sur l'enfance. Généralement, quand on peut reprocher aux films sur les enfants d'être un peu gnangnan, parce qu'il faut avoir une enfant pour les savourer. Là, celui-là, c'est pas ce qu'on peut dire dessus, hein, je vous le dis cash, c'est tout sauf gnangnan. C'est vraiment très très noir. L'esprit, c'est un enfant qui plonge dans ses propres contradictions, c'est une plongée sans concession dans les méandres de son esprit, qui sait pas où il est un peu paumé, il a une grosse désillusion, il pensait se faire des amis, il est un petit peu amoureux d'une fille qui le regarde pas, il devient complètement ingérable et justement il va se retrouver par la force des choses, complètement par hasard, leader d'une bande de créatures sorties d'on ne sait trop où sur une île à moitié désertique, à moitié forestière. Il se retrouve un petit peu propulsé malgré lui à la tête de ces créatures et il va essayer de faire qu'elles ne s'ennuient pas, d'essayer de réconcilier les uns les autres et il s'aperçoit que c'est très 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 dur. Il faut savoir qu'il y a quelques séquences dans le film qui ont été remontées par Spike Jonze qui n'avait pas le final cut malheureusement.
Fonction de l'activité du Parti Socialiste
Ça aurait pu, non, suite à des focus group où des enfants avaient pleuré tellement c'était noir. Et donc la production avait intimé à Jones de retourner des plans. Malgré ça, on voit que le film ça te met pas la patate, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est pas noir non plus, mais c'est vrai que c'est sans concession en tout cas. Les créatures, c'est le point fort du film puisque le procédé utilisé a été sur un tournage, ils ont engagé des comédiens qui ont revêtu les costumes géants des créatures, enfin de géants pour le gamin, sinon c'est des adultes avec des grosses têtes. Donc le petit gamin pouvait parler à des gens en costume, et par contre pour que les visages soient parfaitement animés et vraiment pas kawaii parce que c'est pas vraiment l'univers, mais mignon en tout cas. C'est vrai que ce sont des visages animés numériquement ensuite qui ont été mappés sur les têtes des acteurs qui étaient en costume. Alors voilà, ça donne un effet. Il y a quelques scènes de nuit, mais il y a beaucoup de scènes qui se passent de jour. Franchement, avec la technologie d'aujourd'hui, tu vois rien. Hein. Tu dis, mais comment ils ont fait ça ? À un moment donné, tu abandonnes, tu oublies, tu plonges dans l'histoire. La fin est absolument déconcertante. C'est l'apprentissage de la vie, donc le gamin il comprend que la belle vie c'est aussi fait c'est fait d'échecs, c'est fait de concessions, de choses que tu peux pas peut-être pas comprendre au premier abord, que tu vas devoir mûrir un certain temps. Donc c'est vrai que c'est à moitié je veux pas trop en dire, mais c'est vrai que c'est pas du happy end du tout. Ça t'arrache quelques larmes aussi je préviens pour les plus sensibles, c'est juste une espèce de morale qui apprend à l'enfant que la vie est pas facile tu quittes le film sans savoir trop ce que tu as vu. Tu dis que c'est absolument un film ovni, mais après est-ce que tu as la satisfaction d'avoir vu ce film en disant bon voilà ça me redonne la pêche et tout? Je pense pas. C'est vraiment un film à voir quand même, extrêmement intéressant. Enflammé est avec nous. Alors je sais pas si toi t'as lu le bouquin, moi je l'ai pas lu, alors Je crois qu'il y a personne qui a lu le bouquin ici. Il paraît que c'est une grosse référence sur l'univers enfantin, un peu comme ce que faisait l'analyse de Dolto dessus, mais c'était vraiment une fiction pure. Donc voilà, le romancier a participé en tant que producteur au film. Il est apparemment assez content du film, mais bon, ça fait partie de la promo, donc c'est pas trop. Moi, je peux que parler du film, et c'est vrai que l'impression en sortant du long métrage est assez singulière, on va dire.
Moi, on m'avait dit que c'était que Spike Jonze voulait faire un remake live de Depop Pulse. Est-ce que c'est vrai?
Mon avis, s'il est adapté d'un roman, non.
Alors, si c'est vrai, je pense que c'est ça, que c'est ce film, parce que. Je pense pas qu'il va faire ensuite en plus une adaptation des Popples, ça ferait doublon avec le look des créatures.
Ouais, Bisounours non plus, non.
Non.
Mais ah, c'était une blague.
Peut-être que ça peut faire une trilogie.
D'accord, c'était une blague.
Donc voilà, et ah oui, juste une anecdote, c'est vrai que à un moment donné, il y a été question d'une adaptation en animation du bouquin, et ça devait être produit par Disney, et un gars qui est connu maintenant devait travailler dessus, il avait commencé à développer un petit peu l'univers visuel, il s'agissait de John Lasseter de Pixar.
C'est Pixar, bah tiens, je m'en doutais un peu.
On retrouve quelques bribes dans Monstres et Compagnie quand même.
Ouais, John Lasseter, donc qui avait quitté Disney, qui a été débauché par Pixar pour les aider à concevoir les scénarios et l'animation, et qui est maintenant à la tête du studio d'animation de Disney. Suite à la fusion Disney-Pixar. Un petit peu d'actualité peut-être ? Par rapport à ce qui nous attend en 2010 ? The news. Qu'est-ce qui nous attend en 2010 ? Ah, bonne question. Eh ben, d'abord, il y a le film 2010, l'année du premier contact. Un film qui est sorti en 1984, Peter Iams. C'est adapté du roman d'Arthur C. Clarke, 2010 Odyssée 2, qui est la suite du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, une expédition soviétique est envoyée pour aux alentours de Saturne, de la planète Europe, pour savoir ce qu'est devenu le vaisseau spatial envoyé en 2001 avec à sa tête l'intelligence artificielle HAL 9000. Dans le film Banlieue 13, qu'est-ce qui se passe en 2010 ? Je passe du coq à l'âne, oui.
Oui, sachant que Peter Iams qui a réalisé 2010, donc est-ce que c'est un film qui est directement dans la lignée de Mort Subite qu'il a réalisé plus tard avec JCVD ?
avec les effets spéciaux aussi loupés, oui.
Je me souviens que 2010 c'était presque l'adaptation de Tetris en film.
D'accord.
Avec tous les monolithes. Il y en avait plein.
Vaguement tenté, d'accord. Banlieue 13, est-ce que tu te souviens ce qui se passe dedans ?
Oui, il y a de la castagne, il y a le gouvernement.
Non, mais il y a un scénar.
Alors, le scénar, c'est qu'il y a une bombe, parce qu'il y a les banlieusards, ils vont faire tout péter, et puis il faut que le gouvernement mandate deux gars pour aller leur péter la gueule.
Voilà, alors dans le scénario de Banlieue 13, je rappelle que Pierre Morel, a réalisé ça en 2004 sur la base d'un texte. Il y a eu des émeutes en 2010 et donc on a constitué des ghettos de Kaira. C'est sympa pour ceux qui y vivent. La moitié de la population mondiale va mourir à cause du virus H1N1. Non, pardon, excusez-moi. À cause d'un virus dont le seul remède connu est l'Absolon. Pas de bol, c'est Christophe Lambert, le pharmacien. Un film de David Bartholomew, l'Absolon, sorti en 2003. Lisa Simpson va se marier, c'est dans l'épisode 19 de la saison 6, diffusé en 95, parce que suite à sa troisième année à Harvard, elle a rencontré Hugh, un jeune anglais beau et riche. Et ça, c'est une scène qu'elle voit grâce à une voyante.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est l'année du combat final dans le jeu Street Fighter 2010 Final Fight par Capcom sur Nintendo, sorti en 1990 et jamais arrivé en Europe.
Dont le nom du personnage principal est Ken et qui n'a rien à voir avec Ken.
Non, puisque Ken était déjà marié avec Barbie.
C'était une blague. K2000 va revenir dans le téléfilm Knight Rider 201 Wall, réalisé en 1994. Ou dans... Alors attention, hein, je rappelle, c'est une suite de K2000. Dans un futur post-apo n'ayant vraiment rien à voir avec la série originelle, Kit est greffé dans une Ford Thunderbird et son OS remplacé par une personnalité féminine intitulée KD.
Mais ça, c'est la nouvelle série, c'est pas le...
Ah non, 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 c'est un téléfilm à part qui était sorti en 94 dans le cadre du Suspense Hour, produit par les studios Universal.
Ah, parce que moi, j'ai vu un téléfilm, ça se passait aussi dans le futur, mais c'était pas ça. Donc, tu dois dire
qu'il y a un futur, les salauds. C'est sans l'acteur principal.
Sans David Hasselhoff.
Sans David Hasselhoff.
C'est pas vrai.
Ils avaient déjà greffé Kit dans une vieille voiture, dans une vieille guimbarde des années 50, avec David Hasselhoff. Et là, non, ça se passe dans un futur post-apo, etc.
D'accord.
Ça paraît, c'est vraiment un chier. Et en 2010, la Terre a enfin repoussé la menace Goa'uld grâce à l'aide d'une civilisation alliée, particulièrement coopérative, c'est dans Stargate SG-1. L'épisode s'appelle 2010, c'est dans la saison 4, épisode 16, et ça se conclut dans l'épisode 2001, parce que c'est un futur alternatif et ils envoient un message à la Terre en 2001. Gros clin d'œil quand même, là on peut pas le nier, comme
oui,
pour moi,
tout à fait.
C'est vraiment sympa. Voilà, ça c'était 2010 en fiction et c'est une suite d'événements que j'ai pu dresser grâce à la Wikipédia anglaise. Alors si vous avez d'autres idées, d'autres trucs que vous allez voir, que d'autres références amusantes dans 2010, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de l'émission.
Donc en gros, tu vas sur la Wikipédia anglaise, tu tapes 2010 et ils te sortent une référence à Banlieue 13.
Ouais,
d'accord.
District 13.
District 13, ça s'appelle.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et ils ont dû se dire, eh ben, entre le 9 et le 13, le niveau a baissé. Bref, je tiens à signaler cette année qu'en plus, on aura une nouvelle série de billets bancaires. Ah non, ça c'est vrai, pardon. Excusez-moi. Désolé. Thomas, qu'est-ce que t'as prévu cette année en 2010 qui devrait arriver au cinéma peut-être, ou je ne sais pas?
Ben, je suis tombé sur la sortie des gros blockbusters de cette année sur Allociné ce matin. J'aurais mieux fait de la noter parce que, ben, en fait, on en parlait tout à l'heure en off. Il y a Sherlock Holmes. Il y a, donc, si vous voulez voir Watson et Sherlock Holmes en train de se bastonner dans les,
dans la capitale. Dans des combats au câble.
Voilà. <C'est ça. rire> Avec de la sueur et des gros poings qui saignent. Voilà. Bon, c'est fidèle, c'est ou pas.
Ça respecte le schéma un mort, une blague.
Ah, ça, faut avoir. Oh oui, avec la fameuse la blague du meurtre de popularisée par James Bond.
T'as perdu la tête.
Il y a également Iron Man 2 dont on parlait tout à l'heure. Mais après, à part ces, il y en a d'autres qui tombent sous le sens. Il va y avoir, je pense, le film de sur Thor. Alors, est-ce qu'il va sortir en 2010 déjà? Je ne sais pas. Après, bon, j'ai vu ce matin qu'il y aurait le méchant de les Incredible Hulk qui reviendra faire chier Hulk dans le film Les Avengers, enfin les Vengeurs, donc inspiré de la BD Marvel.
Je peux t'aider. J'ai parlé de Pierre Morel tout à l'heure.
Allez,
il sort un nouveau film, From Paris with Love, le 17 février, et c'est avec John Travolta. Ah oui. Merde. Ah, ça fait peur.
Il y a également le nouveau film du réalisateur de Dark Knight, donc Christopher Nolan, qui s'appelle Inception, avec toujours Michael Caine. Alors pour éviter, parce qu'en fait Michael Caine est très sympathique, c'est un acteur que tout le monde aime, voilà, british, qui est cheveux grisonnants et tout, mais il a juste un défaut, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de dévoiler le scénario aux journalistes quand on lui pose des questions. Donc en gros, Christopher Nolan, puisque j'avais parlé un petit peu du Prestige ici, donc c'est un film moins on en sait et plus on le savoure, et apparemment c'est aussi le cas d'Inception, ce qui fait que Michael Caine a été le seul acteur apparemment du plateau à ne pas avoir lu le scénario en entier, et personne ne sait de quoi parle le film à part les membres de la production. Voilà, ça va être le gros film de Christopher Nolan en 2010.
Et
il y aura également Adèle Blanc-Sec, le nouveau Besson.
Oui, en février dessinée. Normalement. Mm-hmm. On attend aussi dans les suites qu'on attend avec catastrophe Shrek 4, Bond 23 et Wall Street 2.
Oliver Stone et Michael Douglas.
Le Bond, t'es sûr qu'il sort en 2010?
Ouais, il a annoncé. Il a annoncé en jeu courant septembre, théoriquement pour la France. On attend de voir. Il y aura une adaptation d'un roman très peu connu, Les Sables du Temps, de Mike Newell. Avec Jack Gyllenhaal et
oui, Prince of Persia en fait.
Voilà, c'est bien. Et eh ben vous mettez du temps. Ah, oh, ça dort là. Un Sidney Pollack. On achève bien les chevaux et Ken 3.
La
légende de Kenshiro. Oh, ah oui.
L'homme aux sept cicatrices.
On s'inquiète beaucoup de ce côté-là. Bref. Le chat du rabbin. De Johann Sfar.
Et Gainsbourg
aussi, effectivement.
L'autre film de Johann Sfar également.
Voilà, après, on a parlé effectivement de l'agence Tourisque, dont on a appris que Mr. T ne fera pas un caméo dedans, il a refusé.
Oh.
Il a dit non, il faudrait que ça soit plus long avec moi, sinon c'est que dalle.
Qui incarnera Barracuda?
Quinton Jackson, on m'a dit.
Et voilà. Toy Story 3. Aïe.
Bah, Toy Story 2 était vraiment excellent. Donc
ouais, mais ils s'enfoncent dans les licences là, Pixar.
On sait pas. Suite ne veut pas dire de toute façon Dob.
Si je veux te faire rire, Karate Kid avec Jaden Smith et Jackie Chan.
Ouais, non, ça fait pas rire en fait.
C'est
ça me consterne.
C'est
Karate Kid.
On va peut-être
Karate Kid avec un Hongkongais en maître. Mais
voilà.
Pour faire un raccord avec tout ce qui a été dit dans l'émission, prononcer déjà 7 fois le mot Disney. Et 3 fois le mot Pixar, il va avoir La Princesse et le Grenouille, le retour de la 2D chez Disney. Alors, est-ce qu'on continue sur la pente catastrophique de la 2D chez Disney à voir
Vu que maintenant c'est Lasseter qui est derrière, on a peut-être une chance, tu vois. Moi je parie pour la chance.
Et pour continuer sur le mot Chine, puisqu'on a prononcé 3 fois le mot Chine aujourd'hui, il va y avoir un grand projet mené par la Chine continentale et je crois Hong Kong, de super production sur la vie de Mao avec effectivement Jackie Chan et les gros Chow Yun-fat, etc. Enfin tout ce qui se fait d'énorme en Chine pour retracer la création de la Chine. Excusez-moi les amis auditeurs, je me souviens pas du titre.
Mais dans le rôle de Mao, je pense qu'il faudrait qu'il prenne un acteur pas trop connu, je pense.
Shang Shintam, je crois. Non, j'ai pris un au hasard.
Parce que Jeune Fat en Mao, ça le ferait pas, je pense, suite à ses déboires dans Dragon Ball Evolution et Pirates des Caraïbes 3.
Ouais, j'ai envie d'être encore dans un film de bouse. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis invité chez Jay Leno. Ah oui, forcément. Pour terminer cette émission, puisqu'il n'y a pas du sport et qu'il est 13h17 quand même, donc on a presque tenu notre quota normal de temps d'antenne. Pour une fois, on va terminer le programme en avance. Donc, dans notre agenda, il y aura à Toulouse un nouveau festival plus orienté Japon cette fois-ci, puisque ce sera un Toulouse Game Show. À part plus orienté côté Japon, ça devrait être en avril-mai, je crois.
Oui.
Je n'ai pas noté la date exacte.
La saison des cerisiers.
Donc on verra.
Et
peut-être.
Ça s'appelle Toulouse Game Show Oni. Non, japonais après. Donc on n'a pas retenu.
On l'a pas noté. Voilà, ça nous apprendra une fois de plus. Hein, on a fait vraiment par-dessus. Par-dessus les essais, la préparation de cette émission, pour une fois. Non, le sel, c'est par-dessus les épaules. Pas par-dessus les aisselles, enfin presque. et puis, accessoirement, complètement à part, dans les programmes exceptionnels qu'il y aura cette année dans le Supplément Week-end, on devrait avoir au moins fin janvier, donc le programme sera le 30 janvier. On sera en direct, encore une fois, d'Angoulême, au Conseil Général de la Charente, pour une émission produite avec nos amis d'ActuABD, où il y aura la remise du prix du conseiller général des jeunes de la Charente, donc sur une présélection, on verra, et on va essayer peut-être de faire un podcast, donc cette fois-ci sera en dehors de Radio FMR, sera exclusivement pour ceux qui nous suivent sur ActuABD, sur suppléantweekend.fr, et donc on sera aussi sur actuabd.com. On va essayer de tenir une petite rubrique quotidienne de ce qu'il y a à voir à faire à Angoulême, et d'autres choses, voilà.
Ah ben, ravi de l'apprendre, c'est cool.
Ouais, non, mais je sais pas, on a dit, Didier a dit, ouais, pourquoi pas, voilà.
D'accord.
Donc, on va se démerder, le plus dur, ça va être de mettre ça en place techniquement, et de déplanter les PC.
On va essayer de faire le guide culinaire, le reportage pédestre à Angoulême, essayer de trouver, comment se réchauffer, comment acheter des bonnets avec des oreilles de lapin, etc.
Voilà, et plein d'autres choses. Je crois qu'on arrive à la fin.
Thomas, t'as fait un résumé?
Mais je te le fais maintenant là, comme ça.
Parce que tu sais, il y en a qui écoutent pas le début du podcast et il y en a d'autres qui arrivent en cours d'émission. Dis-moi.
Si les gens ne nous ont pas écouté depuis le début, et ben ils ont raté donc la participation de Sébastien à notre émission. Exceptionnelle.
De Cécile, voilà. Merci à eux d'être venus.
On a eu le retour en bande dessinée et en cinéma sur l'année écoulée 2009, nos prédictions pour l'année 2010, un pavé stabilo bossé par Xavier, on a eu de la BD au bambou et de la bande dessinée sur la Chine continentale, des monstres en peluche déconcertants et quelques joyeuseries, des plantages techniques comme d'habitude, et puis voilà. Et nos meilleurs vœux, encore une fois.
Voilà, nos meilleurs vœux, c'est une radio alternative. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, puis là ça marche moyen, mais en tout cas nous on vous souhaite une excellente année 2010. Nom d'une galette royale, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée en podcast, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, vous y abonner pour l'écouter dans votre baladeur quand vous voulez, et aussi retrouver les chroniques écrites, par exemple The Plus Beau Métier du Monde, Lou, et plein d'autres choses, plein de liens que l'on met à côté, jouer, faire plein de choses débiles. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr. Vous écoutez FM 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui doit prendre la suite à 17h, et on continue sur www.radio-fmr.net. Pas du sport dans l'immédiat, donc une petite programmation musicale, et dans le prochain épisode la galette de la mort fera son retour.
Ouais, avec le gage qui va avec.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci à vous de nous avoir écoutés, malgré le gros mal de crâne que vous devez avoir. Merci à nos amis d'être venus sur le plateau en direct. Merci à du sport qui n'est pas venu malgré tout. Merci à JB qui va nous quitter suite à un plan social. Là. J'adore être ça. Ciao, bye bye.